Chapitre 41. J'ai conduit comme dans Mario Kart. Par chance, sur le circuit, je n'ai croisé ni peau de banane ni chompe. La porte de la chambre est ouverte. Une infirmière s'occupe de mon père. Elle est penchée sur lui, le masquant à ma vue, et le questionne sur sa difficulté à respirer. Je l'entends répondre, mais je ne reconnais pas sa voix. Plus rauque, tremblante, sans souffle. Le timbre d'un vieillard. Mon esprit s'affole. Ce n'est pas mon père. Ils l'ont changé de chambre. Il est reparti aux urgences. Ou alors il est mort pendant que j'étais en chemin. Pire, ils me l'ont sournoisement remplacé par un autre. Ce qui me ferait trois papas. L'infirmière se décale vers le monitoring et je suis soulagée de l'apercevoir enfin. C'est bien lui. Avec une tête de déterré et une voix de démon, mais c'est bien lui. Il me repère. Aussitôt, le bip de sa surveillance cardiaque accélère. Alors, monsieur Aubertin, qu'est-ce que vous nous faites ? Plaisante l'infirmière qui ne m'a pas encore remarqué. Constatant que son patient fixe l'entrée de la chambre, elle tourne la tête et me découvre. Bonsoir. Vous êtes sa grande fille qui vient la nuit, n'est-ce pas ? C'est ça. Bonsoir, madame. Les collègues m'ont dit qu'ils vous avaient prévenu. Oui, merci. Comment va-t-il ? Je viens de prendre mon service, pas eu le temps d'échanger avec l'équipe de jour, mais qu'il soit conscient est en soi une excellente nouvelle. Ah, c'est certain. Je vous laisse un moment, mais ne le fatiguez pas. En passant, elle me glisse. Nous n'avons pas encore pu faire d'évaluation neurologique. Même si à première vue il a l'air bien, ne paniquez pas s'il venait à réagir bizarrement. Je hoche la tête. Elle sort en tirant la porte derrière elle. Nous voilà seuls, face à face. Debout au pied du lit, je ne suis capable de rien, à part trembler de tout mon corps. Les mains cramponnées à la barre métallique, je m'efforce de résister au flot d'émotions contradictoires qui se déchaînent en moi. La colère et les questions sont débordées par la joie de le retrouver vivant. C'est la foire d'empoigne entre mon cœur et ma tête en désordre de bataille. Aucun des deux ne m'obéit. Le bip cardiaque de papa ne ralentit pas, bien au contraire. Son visage témoigne peu d'émotion, mais ses yeux s'emplissent de larmes. Que se passe-t-il dans sa tête ? Qu'envisageait l'infirmière en m'alertant sur d'éventuels comportements anormaux ? Mon père s'anime. Que cherche-t-il à faire ? Hurler à la mort ? S'enfuir parce que mon regard lui ferait peur ? Il soulève la main avec peine et l'avance laborieusement dans ma direction. Bouleversée, je réponds en lui tendant la mienne. D'accord. Nous allons commencer par pleurer ensemble. Cela me paraît un excellent programme. De toute façon, vu son état, on n'allait pas démarrer par une partie de chat perché. Je contourne le lit. Je glisse mes doigts entre les siens. Il les serre de toutes ses forces, c'est-à-dire pas grand-chose. Je m'assois sur le bord du matelas et je l'enlace. Le bip s'accélère encore. C'est bien pratique ce truc. On devrait toujours en avoir un branché sur les gens histoire de savoir ce qu'ils éprouvent réellement pour vous. Le serrer dans mes bras me procure un bien-être immédiat. Le tenir, le sentir me rassure. Il est là, il existe et nous sommes ensemble. Les mots de M. Forsetti me reviennent en mémoire. Auprès de ma famille. Dans le champ de ruines de mon esprit, la fumée se dissipe légèrement. J'étreins papa. Nous sommes deux rescapés après un accident dont nous avons été victimes ensemble. Percutés de plein fouet par un secret. Sa tête est calée dans le creux de mon cou. Je crois qu'il essaie de me parler. Je le rassure en posant ma main sur sa nuque. Je le réconforte, murmurant comme s'il était un enfant. Tout va bien. Tout va bien. Il continue à marmonner. Sans doute a-t-il lui aussi trop de choses à exprimer. Je m'écarte un peu, toujours apaisante. Ne brusque rien. Prends ton temps. Amandine, tu appuies sur l'aiguille et ça fait mal. Je me dégage aussitôt, découvrant le goutte à goutte dont le point d'injection dans son bras saigne. Je vais tourner de l'œil. J'ai les jambes en coton. Je me répands en excuses, hésitant entre le fou rire et la culpabilité, toute l'histoire de ma vie. Au cours de toutes ces nuits à ses côtés, Durant ces innombrables heures à son chevet alors qu'il était inconscient, j'ai imaginé ce que mon père me dirait lors de nos retrouvailles. J'ai envisagé des versions mélodramatiques du type « La dernière fois que je t'ai vue, tu étais une petite fille, à présent tu es une femme », jusqu'à des versions plus rock'n'roll comme « C'est pas ma faute si ta mère est une chaudasse. D'ailleurs, il faut que je rachète un extincteur. » J'étais donc partie assez loin. Pas assez pour prévoir qu'il me déclarerait « Amandine, tu appuies sur l'aiguille et ça fait mal. » Je vais opter pour le fou rire. La déprime, j'en ai beaucoup mangé ces derniers temps et j'ai besoin de rééquilibrer mon régime. Papa s'esclaffe avec moi. Enfin, disons plutôt qu'il grince. Ça m'effraie un peu. Il vaudrait sans doute mieux qu'il arrête en attendant qu'on lui remette de l'huile. C'est beaucoup d'émotions dans son état. Il ne faudrait pas qu'il s'épuise. Misère. Son bip s'emballe encore. Le chiffre devient rouge. Sauf si c'est un parti pris esthétique, ce n'est certainement pas bon signe. Que dois-je faire? Je débranche tout et advienne que pourra? Je lui balance un seau d'eau froide pour le calmer? Est-il judicieux d'arroser brutalement d'eau glacée un individu tout juste sorti du coma? Ne manquez pas notre prochaine émission en direct de la chambre de papa. Je m'agenouille au pied de son lit en serrant sa main dans les miennes. Comme une prière, comme un hommage, je pose ma tête le plus près possible de lui, sans appuyer sur rien. Mes larmes de rire et de chagrin sont aussi salées les unes que les autres. Elles finiront toutes par sécher. On se regarde. « Je suis désolée, » dis-je doucement. « J'aurais dû te faire signe, mais c'était au-dessus de mes forces. »«
Tellement eu peur de te perdre. »«
Tout va bien, on est là. » »«
J'ai toujours su qu'un jour ça finirait pas. »
Il a beaucoup de mal à s'exprimer. Difficile de définir ce qui relève de l'épuisement ou de l'émotion. « Ne te fatigue pas, on s'en parlera plus tard. » Cette proposition me demande un véritable effort parce que les milliers de questions qui me remplissent la tête depuis des semaines piaffent dans leur box, n'attendant que le coup de feu du départ pour s'élancer au galop.
Tu es ma fille, Amandine. Je ne laisserai jamais personne menacer ça.
T'inquiète pas. Il prend une inspiration.
Depuis la première fois que je t'ai tenue dans mes bras, j'ai vécu avec la hantise que cette histoire gâche tout.
Il respire laborieusement mais trouve la force d'ajouter.
Je t'ai vu grandir, devenir cette jeune femme remarquable. J'étais terrifiée par cette bombe à retardement. Une torture.
J'ouvre la bouche pour lui conseiller de ne pas se malmener, mais d'un geste fatigué, il m'arrête.
Non, laisse-moi te dire, c'est important.
Il remplit à nouveau ses poumons.
En voyant ta personnalité se dessiner, j'ai su que tu ne me ressemblerais pas beaucoup. Tes yeux, d'abord, puis tes réactions. Cette énergie qui n'appartient qu'à toi. Tu es plus forte que moi. J'ai ensuite compris qu'être père, ce n'était pas uniquement transmettre de l'ADN.
Il est à bout de souffle et sa gorge semble le faire souffrir. Mais il reprend en me regardant bien en face.
Ce n'est vraiment pas l'essentiel, Amandine. Ce qui compte, ce n'est pas de vous donner la vie, c'est surtout de vous apprendre à être vivant.
Si je n'avais pas peur de lui écraser quelque chose, je le reprendrais dans mes bras. Il se redresse légèrement, comme si me confier cela lui redonnait des forces.
Tu vas sans doute être surprise, mais c'est ta sœur qui m'a rassurée sur ma capacité à être ton père.
Il fait de gros efforts pour se concentrer.
Romane est de mon sang et pourtant, j'ai eu vis-à-vis d'elle les mêmes doutes et les mêmes peurs que pour toi. Alors j'ai fait de mon mieux. Et ta mère, vous deux et moi, nous sommes devenus une famille. Vous avez grandi. Maintes fois j'ai voulu te parler, t'avouer la vérité, mais ta mère était terrifiée de ce que cela pourrait provoquer. J'ai accepté de garder le silence. Un fardeau de plus en plus lourd. J'avais même du mal à te regarder en face. Tu as dû te sentir tellement trahi en l'apprenant.
Ne t'inquiète pas. Entre toi et moi, tout va reprendre sa place. Il regarde le plafond, porte la main à sa poitrine mais n'y parvient même pas. Plus d'influx. Il s'affaisse dans son oreiller. Le bip ralentit. Paupières closes, il me demande
« As-tu parlé à maman ?»
C'est compliqué. Ça viendra, mais pour le moment, je ne suis pas prête.
Ne la juge pas trop sévèrement. Écoute-la d'abord.
Elle aura sans doute des excuses pour ce qui s'est passé entre elle et ce monsieur, mais je ne vois pas comment elle pourra justifier le fait de me l'avoir caché alors que toi-même en souffrais. Il ne répond pas. Il ne bouge plus. Il a sombré. Je ne veux pas. En courant, en hurlant, j'ai bondi chercher l'infirmière, croyant qu'il était mort. Elle l'a ausculté puis m'a rassuré. Il s'était simplement endormi. Je ferais bien d'en faire autant parce que là, si je passe la nuit dans cet état et que je retourne au magasin comme ça, si un client me gonfle avec une question idiote comme ils en ont le secret, je lui fais bouffer tout un set de jonglage.